En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
L'Académie des sciences morales et politiques se penche depuis sa création sur de grandes enquêtes sociologiques depuis le 19e siècle. Aujourd'hui, elle reçoit une subvention pour mener à bien ce type de mission. En 2007, elle publiait le fruit de ses réflexions sur la question « La France prépare mal l'avenir de sa jeunesse ». Puis, elle s'est intéressée à la justice et pour sa troisième enquête dans le cadre du mécénat de la Fondation Simone et Cino del Duca, elle se penche sur le thème de la guerre et de la société. La Fondation Simone et Cino del Duca, abritée au sein de l'Institut de France, a permis d'organiser ce colloque international le 17 et le 19 janvier 2013. Une vingtaine de participants se sont réunis autour du thème de la guerre et de la politique, le premier volet d'une démarche scientifique interdisciplinaire qui durera 3 ans, d'un point de vue comparatiste incluant toute l'aventure humaine. La guerre et la religion, la guerre et l'art, la guerre et l'économie, autant de déclinaisons de manière à construire l'objet guerre comme un objet scientifique dans toutes ses dimensions, comme le souhaite l'initiateur de ce colloque, Jean Béchler, de l'Académie des sciences morales et politiques, de la section Morale et sociologie. Guerre et politique est donc le premier colloque international de cette aventure intellectuelle. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de la première des interventions de ce colloque, celle de Jean Béchler, intitulée « Définition politique de la guerre ».
Je vous dirai simplement pour quelles raisons nous sommes ici aujourd'hui et pour 3 ans, du moins pour ceux qui participeront à l'ensemble du projet. J'ai lu Clausewitz il y a plus de 50 ans et je n'en suis jamais revenu. Je tiens le De la guerre pour le livre, le seul livre définitif qui ait jamais été écrit et d'une richesse inépuisable. Et deuxième raison, la Fondation Del Duca qui me permet en fin de vie transformer en réalité projets que j'ai nourris in petto pour la plupart pendant 50 ans. J'avais décidé de terminer ma carrière intellectuelle par une étude sur la guerre et sur la religion. Sur la guerre, nous y sommes. Sur la religion, c'est également bien engagé. Alors, plutôt que d'en dire plus, tout de même, c'est un projet sur 3 ans. C'est le premier colloque, le grand colloque sur le thème, donc guerre et politique. Il y en aura un deuxième donc en janvier prochain, en principe, sur guerre et religion, et un troisième sur guerre et histoire. Et entre-temps, il y aura des journées d'études sur guerre et art, guerre et économie, fiscalité entrera dans l'économie, j'imagine. Enfin bon, toute une série de thèmes de manière à couvrir, et toujours d'un point de vue comparatiste, incluant toutes les époques, toute l'aventure humaine, et non seulement l'époque strictement contemporaine, de manière à construire cet objet guerre comme un objet de science dans toutes ses dimensions. Je n'en dirai pas plus et je passe immédiatement, si vous le permettez, à ma communication qui se veut, si vous voulez, vraiment une introduction également à l'ensemble du sujet. Je partirai de ma conclusion et d'une définition de la guerre dans les termes suivants. La guerre est un conflit violent entre politis sur une transpolitis. La définition comporte 4 éléments, violence, conflit, politis, transpolitis. Je peux et j'essaierai de justifier le rapprochement que j'établis entre chaque élément et une dimension de la nature humaine ou de l'humain en général. Agressivité fait référence à la dimension biologique, conflictualité à la dimension psychique, politique à la dimension anthropique, ANTH, j'expliquerai ce que j'entends par là, et enfin transpolitie à la dimension culturelle. Ces quatre éléments sont indispensables à l'émergence du phénomène guerre comme objet dans les histoires humaines et dans l'ordre où je les ai énoncés. Agressivité, conflictualité, politique et transpolitique. Et je vais essayer très simplement de démontrer ce qui m'apparaît personnellement comme des évidences. La plus grande évidence porte sur l'agressivité et le biologique. Il faut s'en tenir ici à une vérité première, à savoir que la guerre est une expression ou un mode de l'agressivité, mais toute forme d'agressivité n'est pas de la guerre. Bon, vérité première, mais qui est assez facilement oubliée. On en déduit immédiatement un truisme, à savoir qu'il est vrai que la guerre présuppose et mobilise une capacité biologique d'agressivité, mais il est faux que la guerre soit un effet de l'agressivité. Alors, de ce truisme, il est possible de tirer au moins trois développements qui sont un tout petit peu moins triviaux et sur lesquels je peux donc passer rapidement. D'abord, le vivant et l'agressivité en général. On peut définir l'agressivité comme la mobilisation d'énergie par un être vivant pour imposer son existence contre les prétentions à l'existence d'autres vivants. Or, la vie peut probablement être définie comme un dispositif approprié à la transformation de l'énergie physique en énergie applicable à la résolution de problèmes de conservation, de reproduction et d'adaptation. Donc, l'énergie vivante adopte le mode de l'agressivité quand au moins deux vivants menacent leur existence respective sous ces trois chefs. Bon, du côté de la conservation, on a la chaîne alimentaire et la défense du territoire. L'agressivité est mobilisée. Du côté de la reproduction, on peut présenter les choses de la manière suivante. Les spermatozoïdes sont beaucoup plus abondants que les ovocytes et les ovocytes ont intérêt à être fécondés par les meilleurs spermatozoïdes. Il doit en résulter de l'agressivité entre les vivants concernés, en l'occurrence sexués. Quant à l'adaptation, eh bien, chaque espèce maximise ses chances de conservation et de reproduction en adoptant une niche écologique adaptée à ses besoins, et qui entraîne forcément de l'agressivité avec d'autres espèces dont les besoins sont contradictoires, tout étant rare. Alors, dans ce cadre très simple, très banal, je laisserai le soin aux biologistes et aux naturalistes d'en dire davantage, l'agressivité humaine s'inscrit évidemment dans ce cadre. Comme toutes les espèces du vivant, l'espèce est dotée d'agressivité pour affronter ses problèmes, probablement avec une capacité d'agressivité plus élevée que dans les autres espèces, car on peut noter une gradation agressive attachée à la position sur la chaîne alimentaire. Plus on est haute dans la chaîne alimentaire, plus l'agressivité est importante parce que les occasions de conflit sont beaucoup plus nombreuses et plus intenses. Mais, et c'est là que les choses deviennent plus importantes, l'espèce est ainsi marquée biologiquement qu'elle imprime trois originalités exclusives à son usage de l'agressivité. Premièrement, l'espèce est au sommet de la chaîne alimentaire et ne tombe victime d'aucun prédateur. Il faut jamais dire, nous n'avons pas de prédateur. Pourquoi cela ? Parce que l'espèce a les moyens de compenser toute infériorité éventuelle strictement biologique par le recours à des artifices. Et donc, nous sommes au sommet de la chaîne. En conséquence, l'agressivité extra-spécifique contre les autres espèces joue dans la nôtre un rôle très secondaire, puisque nous sommes les plus forts, si vous voulez. Or, la dose d'agressivité doit être écoulée, si vous voulez. Et donc, elle est, disponible pour être consacré à l'agressivité intraspécifique. Nous sommes la seule espèce qui connaisse une agressivité très forte à l'intérieur de l'espèce davantage que envers les autres espèces. Deuxième caractère, l'espèce a passé un seuil de complexité tel qu'elle bénéficie de degrés de liberté qui la soustrait à une programmation génétique stricte. Et par conséquent, l'espèce n'est pas dotée d'un dispositif inné de contrôle de l'agressivité. Nous sommes les seuls à ne pas disposer de ce dispositif. En conséquence, toute manifestation d'agressivité entre au moins deux êtres humains peut se résoudre en violence physique, et toute violence physique peut monter aux extrêmes de la lutte à mort. Troisième caractéristique, l'espèce est équipée d'un dispositif empathique développé bien au-delà de ce que l'on peut trouver dans le reste du monde vivant, qui a pour conséquence que l'agressivité, d'une part, peut donner du plaisir, comme toute activité conduite selon la nature, je renvoie à Aristote une fois de plus, et deuxièmement, et c'est plus grave peut-être, donner lieu à des perversions, c'est-à-dire agresser pour se faire plaisir. Peut-on, sur ces bases, conclure que la guerre est quelque chose de naturel? La réponse est non. En effet, rien dans le premier point ne peut être rattaché au phénomène guerre. Sauf à user d'une métaphore, guerre entre espèces, guerre à l'intérieur, ce sont des métaphores. Alors si on y tient absolument, on pourra parler de guerre animale, et immédiatement il faudra faire une distinction entre les guerres dans le reste du monde vivant et les guerres humaines. Je m'incline devant Platon et je considère que ce genre de dichotomie est strictement inutile, et donc la guerre est un phénomène humain. Alors, aux dernières nouvelles, en 2010, des primatologues ont cru constater dans des sociétés de chimpanzés à l'état naturel des phénomènes qui esquissent tout de même la guerre au sens humain du terme. Ce ne sont pas seulement des combats pour maîtriser une niche écologique, pour en chasser, mais des combats organisés pour conquérir un territoire. Et en disposer, non pas tellement pour les ressources, mais simplement parce qu'on en veut plus, si vous voulez. Alors, je me méfie toujours de ce que disent les primatologues qui tendent à humaniser beaucoup les chimpanzés, mais pourquoi pas? Il n'y a pas de raison que le fossé soit total. Au niveau de l'agressivité, eh bien, rien ne permet de parler de la guerre. Il apparaît seulement que l'agressivité humaine a une propension naturelle à dégénérer en lutte à mort entre humains, et que les humains ont une inclination naturelle à y trouver des satisfactions. Même remarque qu'on peut peut-être trouver des analogues dans le reste du monde vivant, mais c'est tout de même, sont des phénomènes proprement humains. Autrement dit, l'agressivité en général, et humaine en particulier, dont le plaisir et la perversion, sont des données naturelles, certainement indispensables à la cristallisation de la guerre dans les histoires humaines, mais très largement insuffisantes pour ce faire. Voyons si la conflictualité et le psychisme suffiront à faire naître la guerre. Les choses deviennent un peu plus compliquées. Il faut toujours définir les mots que l'on utilise. J'entendrai par conflit la mobilisation de moyens par un acteur humain contre un autre acteur humain pour maximiser ses chances de contrôler un objet convoité par l'un et l'autre. Le conflit a donc une dimension objective du fait de ses enjeux, une dimension subjective du fait de ses motivations et une dimension instrumentale du fait des moyens mobilisés pour les deux premières dimensions. Alors, ce n'est pas une exclusivité humaine, mais la non-programmation génétique ou liberté imprime à ces trois dimensions des caractères qui assignent au conflit une place centrale et décisive dans la condition humaine, bien au-delà de ce que l'on trouve dans le reste du monde vivant. Commençons par la dimension objective. on peut isoler deux sources principales de conflits, à mon avis, sont même sources exclusives de conflits. D'abord, la rareté intrinsèque de trois biens, à savoir le pouvoir, le prestige et la richesse, qui sont de nature, si vous voulez, rares. Autrement dit, il n'y en a pas en quantité infinie pour satisfaire des besoins. Et deuxièmement, la virtualité induite par la non-programmation impose aux humains d'inventer leur humanité en choisissant entre une pluralité d'actualisations possibles, d'où résulte la possibilité de n'être pas d'accord sur les choix effectués. Autrement dit, le dissentiment est au cœur de l'humain. Alors, la rareté et le dissentiment, admettant que ce point de départ soit exact, ne sont pas des sources directes de conflits, pour la bonne raison qu'il existe des solutions non conflictuelles, mais concurrentielles, compétitives, agonistiques pour les résoudre. Par exemple, la rareté peut être gérée rationnellement dans le respect de principes objectifs de justice distributive qui, s'ils étaient appliqués strictement, éviterait tout conflit et toute violence, à savoir que le pouvoir doit aller aux compétents, appréciés par les obéissants, le prestige doit aller aux méritants, appréciés par les admirateurs, et la richesse doit être distribuée en proportion de la contribution de chacun à sa production. Le respect strict de ces principes évite tout conflit. Quant au dissentiment, il peut lui aussi être géré de manière tout à fait rationnelle en appliquant deux principes stricts. Premier principe, si les divergences d'opinion portent sur des objets intéressant tous les membres d'un groupe, ou bien il faut soumettre l'objet à des argumentations contradictoires jusqu'à l'émergence d'un consensus, au moins provisoire, c'est le principe de la palabre, si vous voulez, ou bien il faut reporter la décision jusqu'à la réunion des conditions d'un consensus. C'est la solution helvétique, si vous voulez. Bon, on met de côté le problème pour lequel il n'y a pas de consensus. Et deuxième principe, si les opinions n'importent pas aux membres du groupe en tant que membres du groupe, eh bien, il faut les laisser libres de s'exprimer et de s'imposer dans le privé et l'intime. Le respect de ces principes supprime tout recours à la violence. Malheureusement, la dimension subjective compromet cette rationalité et peut convertir ou commuter la compétition en conflit violent. Je n'entrerai pas dans les détails, mais j'ai du psychisme humain la conception suivante. Je le vois distribué, ça c'est pas très original, en trois départements, la sensibilité, l'intelligence et la volonté. Alors, l'intelligence devrait se rallier à la rationalité. C'est la sensibilité qui fait problème. Elle inclut deux grandes dimensions, si vous voulez. D'un côté, des instincts, des émotions, des humeurs, des sentiments que l'on peut rapporter à l'animalité. Là, on trouve, si vous voulez, des précédents dans le monde, dans le reste du monde vivant. Mais le propre de l'humain dans ce domaine et que cette sensibilité est inévitablement travaillée de problèmes dont les solutions psychiques sont des passions proprement humaines. L'ambition, la cupidité et l'avarice, la vanité et l'orgueil, l'envie et la jalousie, qui, en tant que solution de problèmes, sont d'un contrôle délicat, ne peuvent pas être éliminées, parce qu'éliminer les solutions, c'est faire renaître les problèmes et par conséquent augmenter l'inconfort du psychisme. C'est un moyen, si vous voulez, de se débrouiller avec ses propres problèmes. Pour aggraver encore les choses, les passions humaines peuvent être portées par des individus, mais également par des groupes d'individus, et peuvent par conséquent devenir collectives. Je considère que les passions sont les commutateurs de la compétition vers le conflit. Si nous n'avions pas ces passions, nous pourrions résoudre nos problèmes de manière concurrentielle. Quant à la dimension instrumentale, eh bien, Dieu et ou la nature ont équipé l'espèce de tout ce qui est nécessaire et suffisant à une espèce libre pour assurer sa survie et trouver sa destination. tout ce qui est nécessaire, ce sont les trois activités de l'agir, poursuivre des objectifs en réunissant des moyens. Le faire, c'est-à-dire donner forme à des matières ou matérialiser des formes pour les mettre au service, transformer en moyens. Et enfin, le connaître, trouver des réponses à des questions, là aussi, pour que les moyens puissent être efficaces dans le sens des objectifs visés. Or, toute action, toute cognition et toute faction, objet du faire, peut être indifféremment mise au service de la compétition ou du conflit. Donc, les passions humaines trouvent dans l'ingéniosité humaine des ressources presque illimitées au service du conflit qui devient par le fait même violent. Mais, de même que l'agressivité est inscrite dans la nature humaine, de même le conflit violent est imposé à la condition humaine par les passions. C'est la conclusion. Mais ces deux ingrédients, indispensables à la guerre, ne suffisent pas pour faire naître la guerre parce qu'ils sont présents dans tout conflit violent. Il faut donc introduire au moins un élément supplémentaire pour distinguer entre telle classe de conflit violent et la guerre. Alors, adressons-nous à l'anthropique et à ce que j'appelle la sodalité. Alors, je donne tout de suite mes définitions. L'anthropique est la dimension de l'humain occupée par les actions, les factions et les cognitions mises au service des fins de l'homme par des acteurs individuels et collectifs. Autrement dit, c'est faire connaître, agir au service des différentes fins de l'homme. Parmi les fins de l'homme, il y a la sodalité et la coopération. Nous sommes l'espèce la plus grégaire qui soit. Et nous avons, notre grégarité est à ce point prononcée que nous avons besoin de recourir à trois fins différentes et à trois solutions différentes pour assurer le bon fonctionnement d'une société humaine. Je distingue la sodalité, c'est-à-dire le fait de réunir des individus, qui sont des acteurs individuels, en un acteur collectif, qu'on peut appeler un groupe. Ces groupes peuvent aller du couple à l'humanité tout entière si elle devenait un acteur collectif pour résoudre des problèmes planétaires, par exemple. C'est à l'ordre du jour, où ça commence à être à l'ordre du jour. Il y a une deuxième contribution à la grégarité que l'on appelle la sociabilité, c'est-à-dire l'insertion d'acteurs individuels et ou collectifs, donc les produits de la sodalité, leur insertion comme relais dans des réseaux à travers lesquels circulent des biens, des services, des informations, des individus, Lévi-Strauss ajouterait ou préciserait des femmes, peu importe, on voit de quoi il s'agit. Et enfin, ce que j'ai appelé la socialité, c'est-à-dire ce qui fait tenir ensemble les individus, les groupes et les réseaux, les principes de cohésion et de cohérence des sociétés humaines. Alors, cette grégarité humaine est du degré le plus élevé, car rien d'humain, vraiment rien, ne peut être effectué dans la solitude solipsiste. Il faut toujours s'y mettre au moins à deux. En fait, on montre et on constate qu'une société humaine, c'est la seule définition que j'ai réussi à trouver après plusieurs décennies de réflexion au mot de société, c'est le cercle à l'intérieur duquel toutes les dimensions de l'humain peuvent être actualisées dans la durée. C'est quoi, au minimum, entre 500 et 1000 individus. En dessous de 500 individus, ça ne peut pas marcher. Entre 500 et 1000, et pour des raisons très intelligibles, économiques, démographiques et autres, cela suffit, ce qui est très peu. Ça a été le statut de l'humanité pendant peut-être 200 000 ans. Nous vivions en société d'entre 500 et 1000 individus. On a pu les observer encore au XIXe siècle en Australie, qui était un réservoir, si vous voulez, de solutions paléolithiques. Si l'on part de ce que je viens d'énoncer, en résumant de manière abrupte, eh bien, la problématique anthropique devient extrêmement simple. dans les termes suivants. Soit une espèce agressive et conflictuelle. Comment faire en sorte que la compétition l'emporte sur le conflit violent? Ou bien, comment résoudre les conflits sans le recours à la violence? Comment donc assurer la paix entre les humains qui sont condamnés par leur nature et leurs conditions à se quereller et à se battre? Bien, la solution de principe existe, elle a été trouvée dès le début, elle est double. Première solution, il faut et il suffit, pour assurer la paix comme fin et objectif, d'instaurer la justice dans ces trois départements, je renvoie à Aristote, la loi, énoncer des règles du jeu, sanctionner de manière à rendre légale la punition de leurs transgresseurs. Deuxièmement, le droit, donner à chacun le sien en termes d'échange, de partage, de punition, de redressement, c'est-à-dire d'appel, si vous voulez. Et enfin, l'équité, redresser la loi et le droit au service d'une plus grande justice, en tenant compte pour l'essentiel des circonstances particulières et atténuantes. Deuxième principe, deuxième solution, pour maximiser les chances de la justice dans ces trois départements, il faut et il suffit d'enraciner toute relation de pouvoir dans ceux qui obéissent, considérant qu'il est judicieux de déléguer son pouvoir à des compétents supposés, en prenant des précautions, bien entendu, c'est judicieux de le faire pour atteindre des objectifs collectifs. On en déduit que le régime politique visant la paix par la justice, de base, est un régime mixte. Je retrouve Aristote, Cicéron, saint Thomas d'Aquin, à savoir un principe démocratique, puisque la source des délégations de pouvoir sont les obéissants, un principe aristocratique en principe aux plus compétents, et un principe monarchique qui doivent être placés dans le cas de pouvoir décider et agir. Il résulte de cette solution une distribution des activités humaines en trois sphères ou en trois espaces. Le public, en charge des intérêts communs, c'est-à-dire des intérêts qui entrent dans l'intérêt de chacun des participants au groupe, et où entrent en compétition les projets divergents sur leur effectuation. Deuxième sphère, le privé, où se négocient les intérêts particuliers des individus et des groupes, et enfin l'intime, où sont gérés les intérêts singuliers et particuliers des individus. Ce sont des solutions extrêmement simples, tellement simples à effectuer qu'elles ont à peu près certainement été trouvées tout de suite par l'espèce dès ses premiers pas, si j'ose dire, sur le buissonnement de l'arbre du vivant. Concevoir ces solutions est beaucoup plus difficile, il a fallu des millénaires pour y arriver. On peut plaider que même dans la ligne des hominidés qui précèdent notre espèce, des solutions de ce type ont déjà été trouvées. J'en arrive au point essentiel, à savoir que les sociétés humaines telles que je les ai définies, susceptibles de durer et de résoudre tous les problèmes, en particulier celui de la paix par la justice, définissent ou exigent la constitution d'un groupe que j'appelle polity. La polity est le groupe humain qui est capable d'assurer la paix par la justice, c'est-à-dire d'éviter le recours à la violence. Malheureusement, les passions humaines sont toujours et partout présentes, qui peuvent toujours compromettre la paix et la justice en recourant à la violence nue ou armée, pour s'imposer. Donc toute politique peut à tout moment tomber dans la violence du fait de ses passions individuelles et surtout collectives. Les collectives sont évidemment de conséquences plus importantes que celles qui demeurent individuelles, parce que celles-ci sont plus faciles à contrôler par la justice punitive que les secondes. Alors on peut poser en hypothèse que la complexification des politiques augmente la probabilité des dérapages collectifs, de la violence, ce qui donne des insurrections, des émeutes, des émotions populaires, du brigandage, du crime organisé. On peut également poser en hypothèse que dès que la complexité passe un certain seuil et impose la création d'organes politiques distincts, les passions peuvent nourrir le projet d'usurper le pouvoir par la violence et de le faire servir aux passions des plus forts. Des coups d'État, des révolutions de palais doivent apparaître. Troisièmement, le risque devient non nul, soit d'un partage dichotomique de la politique dont résulte une guerre civile, soit d'une décomposition de la politique dont résulte une compétition violente, anarchique, chaotique pour le pouvoir, pensant aux périodes interdynastiques en Égypte ou en Chine. Et enfin, des révolutions deviennent possibles dont la finalité, du moins dans mon interprétation, est la restauration de la liberté originelle humaine. Alors, si on additionne agressivité, conflictualité et politique, on n'a toujours pas la guerre. On a des conflits violents intra-politiques que j'appelle, ma première enquête et mon premier travail il y a une cinquantaine d'années, j'appelais ça les phénomènes révolutionnaires, j'avais retenu le mot de stase, staseis en grec, et j'avais proposé le mot de stasiologie, c'est-à-dire tous les conflits violents internes à une société. Ce ne sont pas des guerres. Alors bien entendu, étant donné que ce sont des phénomènes agressifs et violents, elles peuvent partager des traits. C'est particulièrement visible dans la guerre civile. Monsieur Olyndre tient à ce que les guerres civiles soient incluses dans l'étude des guerres. Bon, je ne m'y opposerai pas. Mais je pense que la logique et la finalité en sont tout à fait différentes, même si, je répète, des phénomènes concrets leur sont communs. Il faut donc introduire le quatrième et dernier trait, à savoir la transpolitique, c'est-à-dire la dispersion humaine, tout simplement, et la guerre. En effet, il découle de tout ce qui précède que si l'humanité était réunie en une politique planétaire unique, il y aurait à coup sûr des stases telles que je viens de les définir, de toute nature, mais il n'y aurait pas de guerre. Donc la guerre a pour condition première de possibilité le fait que l'humanité soit dispersée en une pluralité de politiques. Mais si les politiques n'entretenaient aucune relation et s'ignoraient totalement les unes les autres, il n'y aurait pas de guerre non plus. Et donc la deuxième condition de possibilité, c'est le contact des politiques entre elles sur une transpolitique. Je préfère ce mot-là parce qu'il est parfaitement neutre et technique, transnational ou international, appliqué à des tribus ou à des cités, ça ne marche pas, si vous voulez. Donc, bon, c'est une commodité de vocabulaire. D'où il résulte que la politique est un espace de pacification tendancielle vers l'intérieur et de guerre virtuelle vers l'extérieur. Pourquoi ça? Simplement parce que la transpolitique, par définition, est dépourvue des dispositifs et des procédures qui permettent de gérer l'agressivité et les conflits par la compétition plutôt que par la violence. Alors, si l'on adopte cette formule conceptuelle comme hypothèse fondatrice d'une science de la guerre, parlons de polémologie, ça je ne l'ai pas inventé, donc stasiologie d'un côté, polémologie de l'autre, eh bien il devient possible d'en déduire un ensemble parfaitement cohérent de propositions prédictives, c'est-à-dire selon une bonne méthode scientifique, susceptibles d'être testées sur des faits inscrits dans la matière historique. Par exemple, une énumération, pas au hasard, mais presque, les études polémologiques devraient d'abord se distribuer spontanément en deux départements, d'un côté la guerre comme phénomène politique et de l'autre la guerre comme phénomène militaire, ce qui se constate effectivement. Alors, la dimension militaire a fait l'objet de beaucoup plus de travaux, beaucoup plus approfondis, alors que je pense que le phénomène politique a été moins étudié du moins en France, pendant très longtemps, j'ai pu préparer et passer une agrégation d'histoire sans avoir bénéficié d'une seule heure de cours sur la guerre ou sur les armes. Il n'y en a jamais été question. Alors ça a changé grâce à des gens de ma génération qui trouvaient ça un peu gênant, par exemple ce qu'on contamine. Et donc depuis, ça a changé, mais c'est tout récent. Et dans d'autres domaines, l'ethnographie, par exemple, la guerre a été souvent ignorée en tant que phénomène politique. Alors, le statut double, autre hypothèse avec prédiction, le statut double de la politique, eh bien, elle doit être d'un côté un espace de la sociabilité et de la socialité, vers l'intérieur, alors que vers l'extérieur, elle relève de la sodalité. Il faut que la politique se constitue en groupe, c'est-à-dire en acteurs collectifs, capables de s'opposer à d'autres acteurs collectifs. Et donc, tout le problème de la fonctionnalité de la politique comme acteur collectif efficace se pose, et se pose dans toutes les époques et dans toutes les sociétés. Autre hypothèse, les conséquences des exigences de la guerre sur la différenciation d'organes politiques à même d'assurer la transmutation de la politique, de la sociabilité à la sodalité. Vaste sujet. Les chances respectives des régimes politiques mixtes, que j'ai définis tout à l'heure, fondés sur la compétition, et d'un régime autocratique contrôlant l'agressivité et la conflictualité par la violence, pour le mettre au service de la guerre, mais retourner ensuite vers l'intérieur. La mobilisation et l'expansion de toutes les ressources à même de décider l'issue des guerres, des ressources non seulement matérielles, mais également idéologiques, la mobilisation de la religion au service de la guerre et de la construction politique. Autre hypothèse, une transpolitie définit un système de jeu dont la logique devrait imposer aux politiques joueurs du jeu des contraintes extrêmement fortes à se conformer à la rationalité intrinsèque du jeu transpolitique. Or, on peut plaider, en s'inspirant de la théorie des jeux, que la rationalité intrinsèque varie du tout au tout en fonction, d'une part, du nombre des acteurs, donc des politiques incluses, et d'autre part, du rapport des forces entre ces politiques. Autre champ d'enquête, la morphologie segmentaire tribale a ce caractère tout à fait remarquable de faire alterner politique et transpolitique selon les conflits à résoudre. Et par conséquent, la gestion et l'expression de la violence devraient faire alterner la stase et la guerre, pour reprendre ces deux mots, et conférer à celle-ci des caractères intelligiblement variés. Or, l'humanité a vécu pendant des millénaires dans cette morphologie segmentaire. Et donc, le phénomène guerre, si vous voulez, il y a des caractéristiques tout à fait originales. Autre champ d'enquête, si la fin du politique est la paix, celle du militaire est la victoire, qui n'est pas du tout la même chose. Ces deux fins peuvent entrer en concurrence et ne pas se combiner, la guerre en tant que militaire, si vous voulez, peut l'emporter sur le politique, et donc on passe, et c'est typiquement clausewitzien, de la guerre contrôlée à la guerre totale. Il y a une logique, si vous voulez, de la montée aux extrêmes. Enfin, les parties jouées sur les transpolitiques produisent toujours des vainqueurs et des vaincus. Alors la succession des parties devrait imposer avec le temps l'absorption des politiques vaincues par les politiques victorieuses. Et donc la coalescence politique devrait être la ligne directrice dominante de l'histoire de l'espèce en plusieurs étapes rétrospectivement constatables et explicables. Et je crois que c'est effectivement le fil directeur et le seul qui donne une explication satisfaisante des histoires humaines à l'échelle des millénaires et jusqu'à aujourd'hui. On peut repérer les phases essentielles. Il y a trois étapes fondamentales. Une phase paléolithique où les sociétés s'ignorent les unes les autres et où la guerre n'existe pas, tout simplement, ou très, très marginalement, mais archéologiquement, il n'est pas prouvé. Et puis, la naissance de la guerre avec la néolithisation, il y a 10, 12 000 ans. Et pendant 5 à 7 000 ans, il a fallu briser, si vous voulez, la morphologie segmentaire qui, en faisant alterner, si vous voulez, politie et transpolitie, est un blocage extraordinairement efficace opposé à la coalescence politique. Mais de toutes petites différences, si vous voulez, dans la distribution des chances, si vous voulez, fait qu'au bout de 5 à 7 000 ans, malgré tout, il y a ce blocage est surmonté et on voit apparaître des plaques culturelles maximales, la Chine, l'Inde, l'Asie antérieure, l'Amérique précolombienne, des cas très particuliers en Europe et en Afrique subsaharienne. Et à partir de là, c'est la marche à l'Empire par les luttes entre principautés et royaumes. Ces empires étant toujours, imposant toujours le recours à des tendances autocratiques fortes. Enfin, on peut annoncer la mort de la guerre si l'humanité se réunit en politique planétaire ou du moins met en place des systèmes de gouvernance planétaire suffisamment efficaces pour que les conflits qui ne disparaîtront jamais ne deviennent pas des guerres, mais deviendront plutôt des stases, parce que là, on peut être tout à fait sûr que la violence appliquée aux conflits humains continueront, quel que soit le degré d'unification politique de la planète. Conclusion en trois mots, la guerre est bien un conflit violent entre politis sur une transpolitis. Si vous enlevez un seul des éléments, en commençant par la fin, vous n'avez pas de guerre. Deuxièmement, la guerre est probablement, à mon avis, pas probablement, mais certainement le phénomène le plus central et le plus décisif dans les affaires humaines depuis une dizaine de millénaires. Et enfin, c'est un fait total par excellence, car elle mobilise et affecte toutes les dimensions de l'humain. Et donc la guerre est un fait culturel, en deux sens au moins. Elle est un produit de certaines circonstances, de certaines conditions, et non pas un trait inscrit dans la nature des choses humaines. C'est l'agressivité, la violence et la politique qui sont inscrites dans la nature et la condition humaine, et pas la guerre. Mais ce produit de certaines circonstances marque toutes les particularités humaines et réciproquement est marqué par toutes les particularités humaines. Et par conséquent, en s'attachant à l'objet guerre et en poussant l'analyse suffisamment loin, on accède, si vous voulez, à toutes les dimensions de l'humain. Merci, madame. Merci à tous.
Vous venez d'entendre « Définition politique de la guerre » de Jean Béchler lors de sa communication d'introduction au colloque « Guerre et politique » qui s'est déroulé du 17 au 19 janvier à la Fondation Simone et Cino del Duca. Retrouvez prochainement l'ensemble des interventions de cet exceptionnel colloque international sur Canal Académie.